Voici une question dont la réponse est importante à retenir. Quelle doit être l'attitude de ceux qui ont à régler des controverses doctrinales? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. C'est merveilleux de poser des questions sérieuses et d'être certain qu'on va recevoir des réponses claires et véridiques simplement parce qu'elles viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Voici des questions qu'on va poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on est sauvé strictement par la grâce de Dieu ou en observant aussi des lois? Est-ce qu'il n'existe qu'un seul évangile? Devons-nous soutenir des ministres qui ne produisent pas des résultats? Est-il important pour un croyant d'aider les pauvres? Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir quand vient le temps de régler une controverse doctrinale? Est-ce que Dieu nous permet de manger ce que nous voulons? Est-ce que notre comportement doit être en accord avec ce que nous affirmons? Restez là, nos réponses s'en viennent. Dans quelques instants, le pasteur Réjean Joly va nous les donner et c'est dans la Bible qu'il les a trouvées. Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce bon enseignement qu'on est sur le point de recevoir. Prions. Ô Seigneur, on aime ta parole. Ta parole est la vérité. On sait que tu nous induiras pas en erreur, que tu vas nous enseigner encore aujourd'hui. On veut te remercier de tout cœur de tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Et aide-nous à le retenir. Aide-nous à l'appliquer dans nos vies pour ta gloire. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. À la dernière émission, Paul a rappelé le fait qu'il avait reçu son évangile directement de Jésus-Christ et non des hommes. Il ne l'a même pas reçu des autres apôtres, car lors de sa visite à Jérusalem, 3 ans après sa conversion, il n'a vu que Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Nous avons vu que Paul a dû grandir spirituellement après sa conversion. Romains chapitre 7 décrit les débuts de la vie chrétienne de Paul et des luttes qu'il eut avec sa chair. Mais il trouva la victoire en Jésus-Christ et il apprit à marcher par l'Esprit. Nous avons besoin du Seigneur Jésus pour notre marche chrétienne et les chrétiens matures ont appris à marcher par l'Esprit. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont misérables parce qu'ils ne marchent pas selon l'Esprit et qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. Maintenant, nous abordons la deuxième partie de cette section personnelle dans Galates. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a communiqué l'Évangile directement à l'apôtre Paul. Était-ce le même Évangile que les autres apôtres avaient reçu du Seigneur Jésus? Nous allons voir la rencontre entre Paul et l'élite religieuse de l'Église de Jérusalem, et celle-ci confirmera que Paul enseignait le même Évangile que les apôtres. Nous verrons que l'Église de Jérusalem a approuvé l'Évangile qu'enseignait Paul. Chers amis, débutons notre lecture. Galates, chapitre 2, verset 1er. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Doit-on observer des lois en plus de croire en Jésus-Christ? Paul fit un coup de maître en se faisant accompagner de Tite. Il était un jeune prédicateur et un grec. Je pense que cette visite se fit à l'occasion du premier concile qui eut lieu à Jérusalem et dont les détails se trouvent au chapitre 15 du livre des Actes. Il n'y avait qu'un item à l'ordre du jour. Est-ce qu'un homme est sauvé strictement par la grâce de Dieu ou doit-il aussi se soumettre à la loi mosaïque? Paul amena Tite avec lui et celui-ci n'était pas circoncis. Exigera-t-on qu'il se fasse circoncire? Ce sera la question importante de ce premier concile. Voyez-vous, les judaïsants affirmaient que l'Église de Jérusalem enseignait que tous les croyants en Jésus-Christ devaient observer la loi de Moïse. Tous les hommes de l'Église de Jérusalem, qui devaient probablement être des Juifs, avaient été sous la loi mosaïque. Plusieurs allaient encore au temple pour adorer Dieu. En fait, le temple devait être un lieu de rencontre pour les chrétiens. Paul et Barnabas sont venus à Jérusalem afin que la question de la loi mosaïque soit tranchée officiellement et définitivement. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul reconnaissait que si son évangile était différent de celui des autres apôtres, alors quelque chose n'allait pas. Paul était disposé à admettre que s'il prêchait un évangile différent, il était dans l'erreur et qu'il avait travaillé inutilement. Donc, il se rend à Jérusalem pour faire confirmer la validité de son évangile par l'Église. Versets 3 et 4. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne sommes plus sous la servitude d'une loi. Là où Paul exerçait son ministère, certaines personnes s'étaient introduites dans l'Église afin d'y imposer leur doctrine. Il semble qu'ils n'étaient pas des croyants. Ils sont venus pour épier la liberté que les croyants avaient en Jésus-Christ. Ils ont découvert que Tite, un jeune prédicateur, était un Grec et que Paul n'avait pas exigé qu'il se fasse circoncire. Que va donc décider l'Église de Jérusalem à ce sujet? Paul dit que Tite ne fut pas contraint de se faire circoncire. L'Église n'a pas écouté les judaïsants. Si elle l'avait fait, nous serions de nouveau sous la servitude de la loi mosaïque et nous ne jouirions pas de notre liberté en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Paul ne lâche pas prise, et il tint son bout. Les judaïsants avaient dit, « Cet homme, Tite, qui est ici présent, l'Église était formée très majoritairement de Juifs à cette époque, n'a pas été circoncis. » « Non, répondit Paul, il ne sera pas circoncis. Il est aussi croyant que n'importe lequel d'entre vous. Il a été sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi. » Il n'observera pas aucune partie de la loi dans le but d'être sauvé. Paul prit une position très ferme. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Il n'y a jamais eu qu'un seul évangile. Paul dit, nous nous sommes assis avec les apôtres, au moins lui, mais je présume que Barnabas et Tite devaient aussi être présents, et je leur ai présenté l'évangile que j'enseigne. Ils répondirent, « Maintenant, Paul, nous avons entendu plusieurs choses à ton sujet. Explique-nous ce que tu prêches. » Paul le fit, et les apôtres n'ajoutèrent rien à son message. Paul prêchait la grâce de Dieu tout comme il le faisait. Tous constatent qu'ils sont d'accord entre eux. Tous prêchent et enseignent la même chose. N'est-ce pas merveilleux? Le même évangile, aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Certains érudits suggèrent qu'il y avait un évangile selon Pierre et un évangile selon Paul, mais nous voyons ici que ce n'était pas le cas. Les deux hommes étaient entièrement d'accord. L'évangile des circoncis et l'évangile des incirconcis réfèrent au groupe qui recevait le message de l'évangile. Paul s'adressait aux incirconcis, car il fut appelé à aller vers eux, vers les païens. Pierre fut appelé à aller vers son peuple, les Juifs, qui étaient les circoncis. Verset 8. car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Un mets est réussi lorsque les gens le mangent. Quelle sorte de résultat est-ce que Pierre et Paul avaient? Lorsque Pierre prêchait, de nombreuses personnes se convertissaient. Il en était de même lorsque Paul prêchait. Les deux hommes prêchaient le même évangile. Si un ministère ne produit pas de résultats, alors pourquoi de continuer à le supporter? Maintenant, pour ramener ceci à notre réalité contemporaine, notons que la promotion ou la publicité n'est pas ce qui rend une œuvre spirituelle. Les résultats sont le véritable test. Les chrétiens devraient s'assurer d'appuyer financièrement les organisations que le Seigneur utilise pour les bénir. Si un ministère ne produit pas de résultats ou de fruits, alors pourquoi le supportez-vous? Verset 9. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Les apôtres ont reconnu que Paul était aussi un apôtre, la main d'association. Le mot grec traduit association est koinonia, et ce mot sert à exprimer une relation personnelle profonde. Ces hommes partageaient les choses de Christ. Verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Plus tard, Paul revint à Jérusalem avec l'argent d'une collecte que les églises d'Asie mineure et de la Grèce avaient faite pour les chrétiens de Jérusalem. En effet, leurs biens avaient été confisqués lors de persécutions, et beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans la pauvreté. Paul avait voulu apporter l'argent lui-même. Chers amis, ne négligeons pas l'aspect social du ministère. Ce fut une œuvre sociale. Plusieurs de nos églises négligent cet aspect de nos jours. Jacques donne des conseils très pratiques à ce sujet. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques, chapitre 2, versets 15 à 17. Les apôtres ont demandé à Paul de ne pas oublier les pauvres, et Paul désirait ardemment les aider, ce qu'il fit en organisant une collecte. Nous voyons aussi dans cet incident une excellente façon de régler les conflits doctrinaux dans une assemblée. Dans le récit du livre des Actes, chapitre 15, nous voyons que les judaïsants n'avaient pas reçu de mandat des apôtres pour enseigner que les païens convertis devaient se faire circoncire et suivre la loi mosaïque afin d'être sauvés. Lorsqu'ils s'infiltrèrent dans l'église d'Antioche, cela provoqua une controverse. Cependant, remarquez ce que fit Paul. Il alla consulter les apôtres et l'église de Jérusalem, et il amena quelques personnes avec lui. Voilà une bonne façon de régler nos conflits. L'attitude pour régler une controverse doctrinale. La question se régla facilement, et voici pourquoi. Premièrement, Paul et les apôtres avaient à cœur non leur gloire personnelle, mais celle de Jésus-Christ. Paul aurait modifié son évangile si les apôtres ne l'avaient pas approuvé. Ensuite, Paul et l'Église de Jérusalem n'abordèrent pas la question avec l'attitude d'avoir raison à tout prix. Ils étaient disposés à se soumettre à la volonté de Dieu. Finalement, les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem examinèrent les faits. Dieu avait béni le ministère de Paul auprès des païens avec de nombreuses conversions. Et de plus, il avait accordé à Paul le pouvoir de faire des miracles. Aujourd'hui, nous avons la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous guider. Nous pouvons la consulter pour régler une question doctrinale. À l'époque de Paul, qui est lui-même l'auteur de nombreux épîtres, le Nouveau Testament n'était pas encore disponible et les livres inspirés n'avaient pas encore été reconnus comme tels par l'Église. Donc, ce sont les miracles qui authentifiaient l'origine divine de l'œuvre des apôtres, y compris celle de Paul. De plus, il y avait l'autorité des apôtres qui avaient reçu l'enseignement du Seigneur Jésus pendant 3 ans. Un cœur disposé à glorifier Dieu en s'y soumettant et un examen des Écritures nous permettent de régler à l'amiable les questions doctrinales difficiles. Nous avons vu 2 expériences dans la vie de Paul. Son séjour en Arabie avec le Seigneur Jésus et sa rencontre avec les apôtres à Jérusalem. Maintenant, nous allons voir un incident qui se produisit entre Paul et Pierre à Antioche. L'église d'Antioche était formée surtout de non-juifs, convertis, quoiqu'il s'y trouvait un certain nombre de juifs. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce texte, à moins d'examiner brièvement comment la jeune église fonctionnait. Le repas du Seigneur, ou la Sainte Cène, se prenait à la fin d'un repas communautaire. Paul en parle dans sa première épître aux Corinthiens. Les croyants se rassemblaient pour un repas avant de prendre la Sainte Cène. Il y eut un problème lorsque des Grecs et des non-juifs furent sauvés. Dans l'assemblée, il y avait des juifs qui n'avaient jamais mangé de viande sacrifiée aux idoles. Par contre, les chrétiens des autres nations étaient habitués à manger de cette viande. De plus, ils mangeaient du porc et d'autres animaux déclarés impurs par la loi mosaïque. Ils n'avaient aucune objection à n'en manger, car ils avaient été élevés ainsi. Un régime alimentaire ne nous rend pas acceptables aux yeux de Dieu. Que faire pour éviter de scandaliser les chrétiens juifs? Bien, à Antioche, 2 tables étaient montées. Sur une, on mettait de la nourriture cachère pour les juifs, et sur l'autre, des mets que pouvaient manger les païens. Paul mangeait avec les non-juifs. Paul, même s'il était juif, mangeait avec les Grecs et les chrétiens des autres nations. Paul savait que manger de la viande consacrée aux idoles ne donnait rien et n'enlevait rien. Ce n'est pas la viande que nous mangeons ou que nous ne mangeons pas qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Lorsque Pierre vint à Antioche, ce fut une nouvelle expérience pour lui. Quoique converti, il n'avait jamais mangé des aliments considérés impurs selon la loi mosaïque. Rappelez-vous ce que Pierre avait dit au Seigneur Jésus à Joppa avant de se rendre chez Corneille. Dans une vision, Pierre voyait une nappe avec des animaux impurs dans celle-ci. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Actes, chapitre 10, versets 13 à 15. Pierre était un croyant depuis plusieurs années lorsqu'il visita l'église d'Antioche, mais il se conformait toujours à certaines coutumes et lois juives. Lorsqu'il se rendit à l'église, Pierre vit la table avec de la nourriture cachère, ainsi que la table avec de la nourriture que ne mangeaient pas les Juifs. Notez la réaction de Pierre. Galates, chapitre 2, versets 11 et 12. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Imaginons comment auraient pu se passer les choses lorsque ce fut l'heure du repas. Pierre alla vers la table de la nourriture cachère, et Paul se rendit à l'autre table. Pierre observa qu'il y avait un rôti de porc sur la table des non-juifs. Après le repas, Paul et Pierre ont fait une petite marche de santé. Pierre dit, « J'ai remarqué que tu as mangé avec les non-juifs. »« Oui, » répondit Paul. « Et j'ai remarqué que tu as mangé du porc, » ajouta Pierre. « Est-ce délicieux ? Je n'en ai jamais mangé. » « Oui, dit Paul, c'est délicieux. » Puis Pierre demanda, « Est-ce que je pourrais manger à cette table ?»« Bien, dit Paul, je crois que l'on servira des côtelettes de porc ce midi. Viens donc en goûter. » Donc, le lendemain matin, Pierre s'assit en compagnie des non-juifs, et c'est avec une légère appréhension qu'il prit sa première côtelette de porc. Il y goûta et dit à Paul, « Mais c'est délicieux !»« Oui, dit Paul, et puisque nous sommes sous la grâce, nous avons la liberté d'en manger ou non. La viande ne nous rend ni odieux, ni acceptable aux yeux de Dieu. « Je mangerai à cette table ce soir, » ajouta Pierre. « Je comprends que l'on servira du jambon, je veux y goûter aussi. » Donc, le soir, il se dirigea vers la table sur laquelle se trouvait le jambon. Mais il aperçut des anciens venant de l'église de Jérusalem à la table de la nourriture cachère. Donc Pierre alla plutôt s'asseoir avec eux et s'en tint à la nourriture cachère, n'ayant pas le courage moral de s'asseoir à l'autre table comme il l'avait prévu. Paul remarqua la conduite de Pierre et voici ce qui se produisit. Versets 13 et 14. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens judaïsés ?» Pierre avait la liberté de manger à n'importe laquelle des deux tables, celle de la nourriture cachère pour les Juifs ou l'autre pour les Grecs. Mais, après avoir mangé en compagnie des non-Juifs, en retournant à la table des Juifs, par crainte de ceux-ci, il disait, par ses actions, que manger à la table des non-Juifs était mal et que manger à la table de la nourriture cachère était bien. Les frères de l'Église de Jérusalem étaient des légalistes sévères. Sous la grâce, c'était leur privilège de l'être. Je n'ai pas de problème avec les personnes qui pensent qu'elles ne devraient pas manger certaines viandes. Cependant, ils doivent respecter ma liberté de manger les viandes de mon choix. Pierre se détourna de sa liberté qu'il avait dans le Seigneur Jésus pour se retourner vers le judaïsme. Écoutez ce texte tiré de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nos actions ne doivent pas contredire nos paroles. Cette rencontre entre Paul et les apôtres fut un moment crucial dans l'histoire de l'Église. Ce premier concile de Actes 15 a permis de définir clairement l'Évangile. Le salut s'obtenait gratuitement par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi pour le mériter ou le gagner. Si l'apôtre Paul a prêché la tolérance et la liberté en ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles, si Paul nous a accordé une liberté en choisissant notre façon d'exprimer notre amour pour Dieu, il n'a pas été tolérant pour toute dégradation du message de l'Évangile. Sous la direction de l'Esprit, il a pris les mesures nécessaires pour établir que les judaïsants n'avaient aucune autorité pour imposer l'observation de la loi mosaïque par les païens qui se convertissaient. Ce message annulait celui du salut par la grâce de Dieu. Il devenait, par le fait même, un autre évangile, un évangile qui aurait laissé plusieurs personnes sur le chemin de la perdition, car elles auraient cherché à gagner leur ciel. Cher ami, es-tu en train de chercher à gagner et à mériter ton ciel? Est-ce que tes pensées et ta façon de te comporter annulent la grâce de Dieu? Cher ami, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, les versets 14 à 20.
Merci, Régent. Je trouve ça tellement réconfortant de savoir que le salut s'obtient gratuitement par la foi en Jésus-Christ, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire pour le mériter ou le gagner. Le salut est une grâce de Dieu, un cadeau qu'on ne mérite pas. Je trouve ça dommage d'entendre des gens dire qu'ils gagnent leur ciel parce qu'ils souffrent ou parce qu'ils font toutes sortes de bonnes œuvres. S'il fallait qu'on gagne notre ciel, laissez-moi vous dire que je suis certaine que je n'y irai pas. Je vois tellement combien je suis incapable de faire quoi que ce soit parfaitement. Surtout quand je regarde comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi je fais attention de ne jamais me comparer à qui que ce soit. Personne n'est capable de vivre entièrement selon les standards de Dieu, parce qu'on doit tous vivre dans un corps de chair. Je comprends donc l'apôtre Paul quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je hais. » Si Paul était imparfait, lui qui avait un zèle extraordinaire et toute une sagesse pour servir notre grand Dieu, eh bien je dois avouer que jamais je ne pourrai être sauvé par mes œuvres. Et toi, mon ami, où en es-tu dans ta compréhension de la grâce de Dieu? Es-tu de ceux qui font beaucoup de bonnes œuvres? Je trouve que c'est bien que tu fasses ça. Mais je suis certaine qu'après avoir entendu l'enseignement qu'on a reçu aujourd'hui, tu dois réaliser que tes bonnes actions ne seront jamais suffisantes pour te mériter une place au ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à mériter notre ciel. Jésus a payé la note en entier quand il s'est laissé crucifier sur la croix. Et il a dit lui-même, « Tout est accompli, juste avant de mourir pour nous. » Si tu essaies de te sauver toi-même, je suis certaine que tu dois être très épuisé en ce moment, peut-être même découragé, parce que tant qu'on n'a pas reçu le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle, par le fait même, on ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Et sans la présence de Dieu, on a tous un grand vide en nous, puisqu'on a été créé pour être en relation avec Dieu et pour qu'il soit glorifié en nous. Alors, mon ami, si tu es fatigué, découragé, viens à Jésus maintenant. J'aime tellement ce que Jésus nous dit dans le 11e chapitre de l'Évangile de Jean, des versets 28 à 30. Permets-moi de te le dire, de t'encourager avec ces versets. Écoute, tu vas voir que Jésus te parle à toi personnellement. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon ami, remets ton fardeau entre les mains de Jésus. Viens à lui pour être sauvé, pour être pardonné. Il s'invite chez toi en ce moment. Laisse-le entrer. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Détourne-toi du péché. Tourne-toi vers Jésus et demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts, juste pour toi. »
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.